Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Alors bonjour Malika Mansouri, bonjour Saïd Bouhama. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries ? Dans le cadre du cycle Corps et colonialité, ce que le racisme fait au corps. On s'intéresse d'abord au parcours des personnes qui interviennent au fil des différentes rencontres. Et puis ensuite, on interroge la thématique principale de ce cycle jusqu'au mois de décembre. Dans un premier temps, si c'est possible que l'un et l'autre vous présentiez pour donner quelques clés à ceux qui nous écoutent. Malika Mansouri, vous voulez commencer ?
Alors, je suis psychologue clinicienne et professeure des universités.
Je suis sociologue, maintenant à la retraite, et militant. J'insiste sur cette double appartenance parce que j'ai une conception de la sociologie qui nécessite un engagement dans les objets sur lesquels je travaille. Et d'un autre côté, je pense que le militantisme a gagné au recul d'analyse que permettent les sciences sociales.
La problématique qui occupe ce cycle, donc, c'est corps et colonialité. Ce que le racisme fait au corps. Et ça me donne envie, en fait, d'interroger ces liens qui peuvent être faits entre le passé et le présent sur, à un moment donné, en fait, selon l'histoire dans laquelle on s'inscrit, selon aussi l'histoire que l'on raconte peut-être au sein d'une famille ou au sein d'une société, qu'est-ce que ça fait sur nos corps ? Qu'est-ce que, dans vos recherches, vous avez aperçu de ce que le racisme, via les conséquences de la colonialité, en fait, peut faire sur les corps et sur les âmes aussi, puisqu'on est aussi avec vous aujourd'hui, Malika Mansouri, sur ces travaux-là.
D'emblée, il n'y a pas de distinction à faire entre le corps et la psyché, qui sont nécessairement extrêmement reliés. Le corps porte l'intériorité, on habite un corps, et le corps est nécessairement attaqué quand il y a des violences qui même lorsqu'elles sont juste parlées, psychologiques, elles peuvent venir et fracter le corps, qui est le lieu où viennent s'enquister toutes les blessures, justement, notamment les blessures qui n'ont pas pu être élaborées, c'est-à-dire qui n'ont pas pu être parlées, celles qui ont été déniées collectivement. Et là, ça vient se cacher dans le corps, quelque part, on peut dire ça comme ça, et ressurgir sous forme de pathologie, de psychopathologie, ou bien sous forme d'agir quand quelques pulsions de vie fonctionnent encore.
Et sur l'aspect plus collectif que ça peut avoir sur la construction d'une société, est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a la place pour dire ça, pour dire ces pathologies, pour dire ces traumas ?
Il ne peut pas en exister par définition. En réalité, toute domination est une expérience totale. On ne peut pas considérer qu'une domination vient toucher un aspect de la vie d'une personne. Elle touche l'ensemble des aspects de son existence et a donc effectivement des effets sur le corps, sur la psyché, sur tout le rapport au monde de la personne. Une société qui accepterait une parole là-dessus serait une société sans domination. À partir du moment où la domination perdure, à partir du moment où les sujets dont on parle sont encore des sujets qui sont dans des places assignées économiquement, dans des situations de discrimination, dans des situations d'inégalité structurelle, eh bien, inévitablement, il faut faire taire la parole sur le corps, la parole sur les effets sur le corps des dominations subies, et la parole sur les effets sur la psyché des dominations subies. Et donc, ne soyons pas étonnés qu'aujourd'hui, il y ait un tabou à parler de ce que j'appelle les effets invisibles et invisibilisés des inégalités structurelles, des inégalités liées à la domination d'une partie de la population. Nous sommes devant une population qui, en réalité, a été construite, pensée, mise en œuvre comme étant la mise en place d'une strate au sein du monde ouvrier français. Autrement dit, le monde ouvrier français est déjà un monde ouvrier exploité, mais on a eu un calcul économique pour maximiser le profit qui est d'utiliser l'immigration postcoloniale comme étant une strate surexploitée au sein même de la société française. Et donc, pour cela, il faut taire l'ensemble des effets. Et les effets sont énormes. Ils sont à la fois en termes de perturbations mentales, à la fois en termes d'impossibilité de construire une vie sereine, incapacité de projeter, incapacité également d'avoir un rapport à sa propre santé qui soit un rapport rationnel. Autrement dit, tout ce qui est construit autour de la surexploitation, inévitablement, a des effets sur le corps.
Et vous, d'ailleurs, dans vos travaux, vous liez beaucoup l'effet du colonialisme, etc., et le capitalisme. C'est important pour vous qu'on ne dissocie pas aussi tout ce qui est aussi sur les enjeux, on va dire, hors corps individuel ou collectif, capitalistique, et finalement toute l'économie et le poids de l'économie encore sur ces questions-là.
Il y a de très nombreuses définitions de la colonisation. J'en ai compté près de 200. Celle que je préfère le plus, celle qui me semble la plus pertinente, est celle qui définit le colonialisme comme étant la généralisation par la force des rapports sociaux capitalistes. La première chose que font les colonisateurs en arrivant dans un pays, c'est de privatiser la terre. Quasiment dans l'ensemble des colonies, la terre était collective. La terre était la propriété d'un groupe. Et autour de ça, s'était constituée une culture, une cohérence d'imaginaire, une cohérence religieuse autour de cette idée d'un destin commun, d'un groupe d'appartenance. Ce que fait le colonialisme pour pouvoir se maintenir là où il arrive, c'est de casser ce collectif, de casser cette cohérence communautaire qui était constituée. Et pour cela, on privatise la terre. Par exemple, si je prends l'exemple du pays d'origine de mes parents, l'Algérie, ils sont arrivés, aucune des terres n'était propriété privée. Ils ont pris les gens des tribus, ont divisé la terre à partir du nombre de familles et ont attribué des noms. Même les noms des personnes, c'est-à-dire la manière de se nommer, n'existait pas. Les Bouamama s'appelaient les membres de la tribu Bouamama. Et là, on est venu et on a dit non, c'est trop. Il faut que chacun d'entre vous choisisse un nom. Donc l'un va s'appeler, parce qu'il n'avait pas de cheveux, Bourras. Donc à partir de son corps physique, on lui a donné un nom. Et beaucoup de descendants de la colonisation pensent qu'ils héritent un nom de leur ancêtre, alors qu'ils héritent un nom de la privatisation des terres liée à la colonisation.
Qu'est-ce que ça crée, ça, justement, cet héritage, ces traumas qui sont liés à une histoire, mais qui finalement, en fait, vont se transmettre? Est-ce que vous, dans les personnes que vous rencontrez, qui sont peut-être les personnes les plus jeunes, les adolescents, j'aurais envie aussi un petit peu de m'intéresser à eux, c'est des choses qui vont être abordées ou ça va prendre du temps de détisser, en fait, tout ça?
Ce que je peux dire, c'est que les effets de l'histoire et des violences de l'histoire sur les corps a déjà été décrit en réalité par Fanon en son temps. Pendant la colonisation, ça produit quoi finalement d'être perçu dans le regard de l'autre, d'être regardé et de se percevoir soi-même à travers le regard de l'autre comme étant méprisable, réductible. Quand on est pris par le regard qui est posé sur soi de cette manière-là, alors on se transforme d'une certaine manière en ce qui nous est renvoyé en miroir, c'est-à-dire que le corps se rigidifie. Fanon parlait des corps dans le syndrome méditerranéen, il raconte ça très bien, des corps qui se solidifient, qui deviennent durs comme des pierres et qui empêchent l'être d'être en bonne santé physique même, hein, et qui vont des gens qui vont se plaindre de douleurs dans le corps, et les médecins, ne voyant rien de biologique là-dedans, considéraient que c'était des malades imaginaires. Hein. Donc finalement, Fanon a permis de contextualiser, de prendre en compte les violences du système de l'époque et de mettre en évidence qu'au fond, ce qui se passait, c'est que l'être, le sujet, était à lui-même sa propre douleur. Ça, c'est une question existentielle. Comment je peux être si je suis méprisable? Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit. C'est ça que l'on retrouve. C'est-à-dire quelque chose, bon, communément, on dirait de manque de confiance en soi. Quelque chose de tout faire pour être aimable parce qu'on se sent non aimable, parce qu'on ne se sent pas beau, parce que les critères de beauté sont différents, ceux de la majorité, etc., etc. Donc vraiment, le centre, le cœur du problème là, il est la douleur dans le corps, la douleur de soi, en fait. Soi, ça fait mal. Être soi-même, ça fait mal.
Et c'est aussi, ça peut aussi s'exprimer sous forme de colère. Vous avez notamment pas mal étudié en 2005 ce que ça a pu créer. J'imagine que cette année, en fin juin 2023, début juillet 2023, ce qui s'est passé après le meurtre de Naël, ça a dû faire ressurgir aussi pour vous pas mal de choses en lien à ce que vous aviez vu à cette époque-là. Cette colère, on a l'impression qu'elle n'est pas justifiable, qu'on n'a pas le droit en fait de l'expliquer au regard justement de cette histoire et de ce trauma colonial. À votre avis, de quelle manière on peut arriver aujourd'hui à faire passer cette idée-là en fait ? Est-ce qu'il y a la place pour cette idée-là ?
Je crois que comme le proposait Fanon, pour pouvoir diagnostiquer un phénomène dans la société, il faut faire un diagnostic de situation. Et la situation est complexe en ce moment, hein, politiquement, socialement. Aujourd'hui, hein, l'histoire qui est en train de s'écrire, elle est très complexe et elle ne permet pas tellement hein, d'ouvrir des fenêtres, des portes pour pouvoir penser autrement que comme la majorité l'aura décidé. Alors, jusque-là, en 2005, j'avais entendu cette parole à l'époque que les émeutiers, parce que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les corps, là encore, morts, ceux qui sont morts sous les balles cette année ou ceux qui sont morts électrocutés en 2005, sont vite oubliés hein, dans le collectif, sont vite oubliés pour être remplacés par ceux qui font du bruit, ceux qui crient justement, hein, dans des cris agis par des bruits brûlés, là cette année volés, il y a des choses nouvelles, ok. Mais ces corps, finalement, on ne les pense pas comme existants dans la réalité sociale, et c'est quand ils s'agitent qu'on les entend, quand ils crient qu'on les entend, et on les traduit nécessairement de manière négative. En 2005, on disait de ces enfants, de ces adolescents, qu'ils étaient des délinquants à la parentèle étrangère dont il fallait débarrasser le pays. Cette année, bon, oui, ce sont aussi des délinquants, mais le délit doit être payé par les parents. Et là, on va plus loin, c'est le corps familial qui est attaqué. Ce sont les parents que l'on criminalise, que l'on expulse.
Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour reprendre possession de son corps d'une manière individuelle ou collective ? Qu'est-ce que vous envisagez, vous, comme moyen de lutte ?
Je crois qu'il faut d'abord regarder dans les réponses qui existent déjà, les réponses spontanées des premiers concernés, à une injonction d'invisibilité du corps. Les premiers concernés répondent par une survisibilité. Je pense que, par exemple, la question de la visibilité du foulard est à la fois liée à une réelle foi religieuse, mais aussi à une réponse à l'injonction d'invisibilité. Je pense que l'injonction de ne pas dire les inégalités, à cette injonction-là, répond à des modes caricaturaux de dénonciation de l'invisibilité. C'est-à-dire on va pousser la logique jusqu'au bout, là où on critique des personnes d'être dans une dimension communautariste, on va réaffirmer de manière caricaturale que oui, nous appartenons à une communauté qui n'est pas celle des autres. Donc je pense que le premier élément de réponse, c'est de refuser l'injonction. Le second élément de réponse, c'est de justement prendre du recul analytique. Et je pense qu'on a aujourd'hui, c'est un grand pas en avant, on a aujourd'hui toute une série de productions de nature très différente, qui vont de la thèse universitaire jusqu'à la chanson de rap, dans lequel les questions des injonctions faites au corps sont analysées, sont transformées en subjectivités, et en subjectivités qui sont des subjectivités qui portent un avenir, autrement dit, qui posent la question d'une autre société dans laquelle on ne serait pas jugé là-dessus. Alors ça, c'est ce qui existe déjà. Dans ce qu'il faudrait produire, je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation intermédiaire. Le fait que un certain nombre de questions aient été posées de manière précise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, on a quelque chose qui est sans... on a une affirmation, un positionnement, des postures, des manières d'être spontanées qui viennent contredire complètement le discours dominant et les injonctions dominantes. Je pense que là où nous en sommes, la question qui vient juste après, c'est la question de pouvoir transformer cela en mouvement collectif. Et je pense qu'on en est là, simplement un mouvement collectif, ce n'est pas quelque chose de facile à construire, parce qu'on parle là d'un mouvement collectif des gens les plus précarisés, des gens qui tous sont à des niveaux différents, parce que l'impact du même voyance n'est pas la même selon les personnes. Et donc on a un véritable dénivelé des impacts de cette violence sur les corps en fonction des personnes. Et bien entendu, c'est pas exactement la même expérience. Et ça crée une difficulté à construire du commun, parce que justement, nous n'avons pas affaire à une violence unique. Nous avons affaire à une violence qui a des impacts différenciés en fonction des facteurs de résistance qu'ont hérité les gens de leur propre histoire. Que le groupe familial soit construit permet d'être moins impacté par la violence sur son propre corps. Que l'on se retrouve dans une dimension dans laquelle on a eu accès à des analyses nous permet d'avoir un impact moins important, etc. Et donc nous avons une extrême diversité des impacts. Et ça rend difficile la construction d'une parole collective et d'un mouvement collectif. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait commencer à travailler. Comment, avec des impacts très différents d'une personne à l'autre, on peut quand même construire du nous. Je n'ai pas la solution, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Construire du nous en sachant que la violence de cette injonction sur les corps n'est pas la même pour l'un ou pour l'autre.
Cette construction du nous doit être large et peut-être aussi trouver les moyens de sortir le plus grand nombre de la surdité et de l'aveuglement. Comment ? Je ne sais pas encore.
Et est-ce que ça vous donne encore des raisons de crier et la force aussi de crier, puisque ça demande de l'énergie de crier finalement.
Oui, alors crier, c'est un joli mot pour parler justement des agirs de ces adolescents et de ces adolescentes, hein, puisque c'est de rappeler le voile. Mais écrire, c'est aussi crier. Et là, on ne peut que continuer.
Je pense que il est plus que jamais à l'ordre du jour de crier, si l'on définit le cri comme l'annonce d'autre chose que le cri, comme l'annonce de quelque chose de plus serein, de quelque chose de plus égalitaire, de quelque chose de plus de moins clivé en fonction des origines ou en fonction du sexe ou en fonction, etc. Si la perspective qui est la nôtre est celle de l'égalité, nous devons crier aujourd'hui pour ne plus crier demain. Et ce cri, il doit avoir en tête que nous n'avons pas à chercher un ennemi dans une catégorie de la population. C'est un cri contre un système de domination. Et c'est tout le chemin qui reste à parcourir. Inévitablement, les dominés réagissent à leur domination en fonction de ce qui est plus visible. Et donc parfois, ils peuvent se tromper de chemin. Ils peuvent crier contre un ennemi fictif. François Fanon nous a très bien appris que la première forme du cri contre la domination coloniale, ça a été de s'entretuer entre Noirs et entre Arabes, parce qu'on n'avait pas la perception du système, et donc c'était mon voisin qui apparaissait comme mon ennemi. Et donc nous avons vraiment besoin, si j'ai consacré toute mon existence militante à essayer de construire des espaces collectifs dans lesquels ça puisse se parler, c'est tout simplement parce que sinon on est dans une dynamique suicidaire. C'est-à-dire que c'est celui qui me ressemble le plus qui va m'apparaître comme mon ennemi. Et la seule manière de dépasser cela, c'est des espaces collectifs dans lesquels on socialise nos réflexions et dans lesquels on puisse penser le système et non pas simplement celui qui m'apparaît comme l'ennemi parce qu'il a dit une chose qui est en désaccord avec moi. Et c'est en cela que les procès qui sont faits à tous ceux qui essayent de construire ces collectifs sont des procès qui sont véritablement scandaleux. C'est-à-dire les seuls qui tentent d'éviter des faux ennemis, autrement dit le blanc, le rom, ou etc., sont ceux qui sont justement diabolisés, parce que le système de domination a besoin de caricaturer pour éviter la remise en cause de ce qui est central dans cette société. Oui, il y a un système qui bénéficie à une classe sociale et qui a besoin pour cela de diviser l'ensemble de la population.
Est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question que je me pose à moi-même ces derniers temps plus parfois, parce que le contexte est celui-là, une lassitude quand même de toujours porter ce cri ou porter une colère ou quelle que soit l'émotion que ce soit ou le sentiment que ce soit pour vous?
C'est une vraie question, psychiquement épuisant, hein, c'est vrai. Alors, bon, dans la société, les générations, au fil du temps, génération après génération, il y a une inscription qui se fait et des relais qui se prennent et d'autres voix s'élèveront certainement. Voilà, elles s'élèvent déjà, hein, autrement, voilà, et c'est très bien.
Je comprends très bien les gens qui sont épuisés. Il faut vraiment ne pas avoir vécu ce que c'est que se battre pour l'égalité, que pour ne pas comprendre que des gens à un moment donné puissent se sentir vidés, épuisés, impuissants. Mais si l'on pose la question de ce que ça veut dire pour les premiers concernés, c'est-à-dire pour l'ensemble de ces jeunes des quartiers populaires, héritiers de l'immigration, héritiers de la colonisation, qui subissent encore aujourd'hui toutes ces violences, on est obligé de constater que il faut introduire la notion et le concept de charge mentale. La charge mentale, quand on s'appelle Mohamed ou Aminata, Saïd ou Fatima, la charge mentale, pour simplement être tranquille, simplement pouvoir faire sa vie, sans avoir des prétentions révolutionnaires, et juste faire sa vie, elle est énorme. Nous avons une police de l'habit aujourd'hui. Mettre un foulard, porter une abaya, tout cela est l'objet de surdébats politiques. Allumer sa radio, allumer sa télé et entendre des choses sur soi, sur les siens, entre guillemets, parce que le terme sien, comment on le définit? Mais s'entendre décrire, parler, construit, caricaturé en permanence, c'est une charge mentale énorme. Et par conséquent, la question qui nous est posée, et en tout cas moi c'est ce qui motive le fait que je continue à tenter de parler, c'est que à chaque fois qu'on prononce une parole qui dit la domination, on est déjà dans une partie de la solution. Moi ce qui me fait tenir, c'est vraiment le nombre de personnes qui m'appellent, qui m'écrivent, etc., et qui me disent, bah, tel texte, ça m'a aidé à savoir que j'étais pas tout seul. Ça m'a aidé à savoir que j'étais pas fou. Ça m'a aidé à savoir que j'étais pas parano. C'est un véritable moteur. Je ne cherche pas la reconnaissance dans les notoriétés publiques et officielles, tout simplement parce que je sens que lorsqu'un dominé reconnaît dans une parole que ça lui permet d'aller mieux, je pense que rien que cela, sans même transformer la situation, est déjà une motivation pour continuer. Mais je pense également que nous sommes dans une période particulière, que la violence que nous vivons aujourd'hui est liée au fait que des gens parlent, que des gens parlent enfin, que de certains sujets qui étaient tabous se disent. Bien sûr, ils sont diabolisés, bien sûr, ils sont dans des ripostes de violence contre eux, etc. Mais ça n'enlève pas la parole. Les gens parlent aujourd'hui. Et c'est ce qui explique la dureté du débat politique. C'est justement parce que les gens parlent. Si tout cela se taisait, je pense qu'on aurait un calme, mais qui est le calme de la domination, le calme du cimetière. Et donc, je suis toujours embêté sur le constat de la de la dramatisation de la situation. Oui, c'est plus violent qu'il y a 10 ans. Mais c'est plus violent parce que les choses se disent et que ceux qui auparavant entretenaient et dominaient le système, sont embêtés par les paroles qui se disent. Ça, c'est un moteur pour moi pour continuer à parler, je crois, jusqu'à mon dernier jour.
Merci d'avoir répondu à mes questions et merci pour vos réflexions et travaux toujours enrichissants.
Merci.
Merci. C'était Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.